I knew where I had to go. I thought that I forgot.
Move a little faster.
So give me a sign, baby.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Berthomé, je suis très heureux de vous retrouver dans cette troisième saison du Podcastologue, notre 28e épisode, en compagnie de Bruno Guglielminetti et Philippe Chapeau. Bonjour Bruno, bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Et bonjour Stéphane.
Vous êtes en forme?
Oula.
moi je vois Philippe arriver à la course.
Ouais, ben Philippe, tu reviens du Paris Radio Show dont tu vas nous parler, on espère en fin d'émission.
Ouais.
Dans cet épisode, vous savez qu'on consacre maintenant une partie de cette saison à des explications sur la façon de créer son podcast, de l'enregistrer, de le fabriquer, etc. Et dans cet épisode, ben on va aborder les thématiques qui sont le choix du format, la durée des épisodes, leur fréquence de diffusion. Est-ce qu'on diffuse toutes les semaines? Est-ce qu'on diffuse toutes les deux semaines? Tous les mois, quel ton on peut employer? Est-ce qu'il y a un ton qui correspond à un type de podcast? Et puis on va parler aussi de l'identité visuelle du podcast, c'est-à-dire sa vignette.
On fait tout ça aujourd'hui.
On va essayer de faire tout ça.
Wow,
en tout cas. Okay. Et même peut-être la musique. Puis si on n'arrive pas à parler de tout ça, on en parlera dans le prochain épisode. De toute façon, on n'est pas pressé. Avant de lancer cet épisode et de débuter dans ce long programme, je vous rappelle que nous avons deux partenaires de qualité que je salue, Edisound qui assure la visibilité du podcast et des podcasts en général via des players qui sont placés sur des sites web qui permettent d'augmenter les écoutes de façon très substantielle. C'est vraiment une solution très très efficace que je vous recommande si vous avez un podcast ou si vous êtes une marque qui souhaite faire parler d'elle. Et puis, notre second partenaire de cette saison, c'est Scribecast. Alors, je l'appelle parce que c'est pas évident, c'est Scribecast, Scribe. Si vous connaissez pas encore, bah c'est une solution française, 100% française, qui permet de générer des transcriptions et des contenus marketing à partir de l'audio de vos épisodes. Ça évolue très très vite. Je vous parlerai justement en actualité des évolutions de cette solution qui va très très vite. C'est des contenus qui sont hyper bien faits en termes de transcription. Alors je vous encourage à aller sur les sites de nos deux partenaires dont je mets les liens en description de cet épisode. Et on commence maintenant dans la partie un peu pédago avec la question de la structure des épisodes. Comment on détermine si on doit faire un monologue, si on doit faire des entrevues, si on choisit le mode reportage, etc. Alors il y a des cas où ça se fait tout seul, on n'a pas le choix, hein, si on mène une enquête documentaire ou si on est sur des témoignages, mais toi, Bruno, pourquoi tu as choisi le format qui est le tien? Par exemple, on va se caler sur l'expérience des uns et des autres. Pourquoi tu as choisi le format qui est le tien, qui est à la fois un monologue et en même temps des entrevues avec des invités?
Ouais, ben moi, je le vois beaucoup plus comme un format de magazine où je me prends une partie au début pour m'adresser à l'auditeur qui prend le temps de venir m'écouter. C'est mon coin à moi où quand j'ai des messages, j'ai des propos, j'ai des réflexions, je partage. Et puis, il y a un bloc actualité. Et c'est intéressant parce que je vois que, j'allais dire la majorité, c'est l'entièreté des gens qui viennent écouter le podcast. Je les ai presque à 95%. Dans le bloc d'actualité au premier sujet. Et puis, tranquillement, pas vite, ben je vois qu'ils vont écouter certains segments qui les intéressent. Évidemment, il y a plus de 50% là, qui suit de A jusqu'à Z. Mais je vois qu'il y a cette partie-là qui est importante. Alors, je la conserve. Mais après, je me suis donné, parce que je couvre l'actualité technologique, alors je me suis donné cette chance de pouvoir permettre de faire entendre des gens qui s'intéressent ou de par l'actualité ou de leur expertise ou parce que c'est des intervenants. Et c'est un choix que j'ai fait comme modèle. Donc, une partie où c'est moi tout seul avec l'auditeur, après c'est moi avec des invités, puis à la fin, je me permets des collaborations, des gens qui sont là semaine après semaine et qui viennent parler de leur sujet. Et le résultat, ça fait quelque chose de varié pour l'oreille. T'sais, c'est pas une longue conversation qui dure pendant une heure et demie, ce serait difficile dans mon cas. Alors là, de segmenter comme ça avec 10-15 minutes où c'est moi au début, et après c'est des invités, il y en a 3-4 par semaine, puis après c'est des segments qui vont de 3-5 minutes, ben là ça fait plus de variété.
J'aime bien le terme magazine parce que c'est vrai que ça représente bien mon carnet, puis ça représente bien une forme de podcast que moi j'aime bien. Je sais, Philippe, la dernière fois qu'on en a parlé, je me souviens que t'as dit avec ta bonne humeur, et ton jovialisme habituel, que ça manquait d'imagination dans la création de podcasts. Bon, alors il y a des
moi j'en suis l'exemple, j'ai pas d'imagination.
Non, bah je trouve que c'est quand même déjà une coche au-dessus que de s'asseoir devant un micro et de recevoir un invité pendant une heure et demie. Il y a un travail à la fois d'information.
Ouais, mais c'est du boulot, c'est pas tout le monde qui a le temps.
Je sais que c'est du boulot, mais donc justement, Philippe, toi qui soulevais ce point en disant « ouais, ça manque un peu d'imagination, etc. », je te renvoie la question. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a un podcast où on veut évoquer des sujets qui sont pas dans l'ordre du documentaire ou de la fiction ou c'est quoi qui fait preuve d'imagination aujourd'hui dans le podcasting?
Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de règles, en fait. Et justement, il faut pas se mettre de règles. Si on commence à se mettre des règles ou si on commence à se dire il faut que ça soit fait comme ci, ça soit fait comme ça, que je dois copier un tel, je dois faire comme l'autre. On en a parlé la dernière fois. Je pense que c'est une erreur parce que on est tous uniques. Et après, comme dit Bruno, c'est du boulot. C'est-à-dire, c'est pas se forcer à être différent. C'est faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, tu as envie de commencer avec une rétrospective de l'actualité. Ensuite, tu vas avoir un invité. Ensuite, tu vas avoir un bout. Et peut-être, tu peux peut-être prendre ce qu'a dit l'invité, le mettre au début et faire un véritable montage audio avec en plus de un peu de d'illustration sonore, de musique de fond, parce que tu veux aussi embarquer l'auditeur dans ton univers. Mais tout ça, c'est hyper chronophage, c'est hyper. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se passe que par facilité, tout le monde fait à peu près pareil. Tout le monde fait de l'entretien et on arrive à un espèce de modèle qui se ressemble. Et en plus, la plupart des podcasteurs qui démarrent, et si vous démarrez, essayez d'éviter ça, démarrent de la même manière en demandant aux invités de se présenter par eux-mêmes. Donc, si
ah
tu
oui,
veux.
Tu nous l'avais sorti déjà la dernière fois, ça. Hein. Ça, bon. T'aimes pas ça, ça.
Mais c'est pas que j'aime pas. Mais présente-toi. Personne aime ça. Quand t'as écouté trois podcasts comme ça, tu dis, non, pas encore.
En fait, non, c'est de la paresse de l'animateur.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Ou à la limite,
si ou de la compétence.
Oui, aussi. Pour régler cette histoire-là, moi, ça me fait rire parce que, et puis là, je veux pas offenser personne, mais moi, dans la vie, quand je m'amuse pas à un microphone à vous parler ou à faire mon carnet, je fais beaucoup de conférences et le nombre, et depuis un an, je tourne sur l'intelligence artificielle, et le nombre de gens qui me présentent en disant, ben, j'ai demandé à ChatGPT de présenter notre invité. Puis j'entends systématiquement toujours les mêmes présentations. À un moment donné, là, il faut essayer d'aller voir ailleurs.
Ouais, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination. En fait, il faut revenir à la question du storytelling. On peut pas mettre du storytelling partout. Il y a des formes de podcasts comme l'entretien où c'est difficile de le faire. Par contre, on peut mettre un peu d'originalité dans la mise en scène, ce qui est du storytelling aussi, donc de la réalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu présentes ton invité, d'abord, si tu fais la démarche de faire une recherche, et effectivement, moi aussi, je conseille de rechercher sur votre invité et de pas lui attendre que lui-même va se présenter. D'abord, parce qu'il va le faire d'une façon qui va peut-être pas toujours vous satisfaire, ou aller à l'endroit où vous voulez aller, d'une part. Et d'autre part, faire preuve d'imagination, c'est démontrer dès le départ à vos auditeurs, auditrices, que vous connaissez votre sujet, que vous avez travaillé votre truc. Donc déjà, je pense que c'est important de savoir d'où parle la personne, qui elle est, pourquoi elle va parler de ça. C'est pourquoi toi, Philippe Chapeau, qui a fondé un magazine, qui est super actif dans les festivals, etc. Pourquoi tu dis que tel sujet est pas intéressant ou tel type de podcast est pas intéressant? Parce que tu as l'expérience pour le faire. Pourquoi?
Moi, je suis pas d'accord.
Ah ouais, c'est drôle ça.
Je trouve que le storytelling, c'est comme si tu demandais aux acteurs des films de se présenter avant que
le
film
démarre.
Mais
c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que c'est à toi, l'animateur.
Non, ou alors de faire comme tu as dans les livres à l'époque où tu présentais tous les personnages de théâtre avant de commencer la pièce. Ah, ça se fait plus.
Ouais, mais écoute, ça c'est une ça va
être
une discussion.
Alors, un podcast, excusez-moi, c'est une histoire qu'on raconte. L'histoire qu'on raconte, c'est comme un film. Pour moi, un podcast natif, c'est comme un film au cinéma, c'est une production. Et quand on produit quelque chose, ben quand on va au cinéma, je suis désolé, il y a un format qui fonctionne et qui est, et ben là, c'est pareil en audio. Je pense qu'on peut très bien présenter une personne à l'intérieur d'un podcast sans forcément que ça démarre avec et sans forcément que nous on le fasse ou que la personne le fasse. On peut le découvrir au fur et à mesure.
Moi, je suis pas sûr que je vais aimer d'écouter un podcast sans savoir vraiment qui parle et pourquoi cette personne-là est en train de me parler. Honnêtement, j'ai pas de temps à perdre avec ça.
Très bien dire. D'abord, tu le sais parce que en général, quand tu cliques sur un podcast dans la présentation,
c'est ça, il y a un descriptif, il y a un contexte.
Donc, si tu veux, il y a un moment où tu sais de toute façon à peu près qui est la personne. C'est-à-dire, tu sais son nom, son prénom et tu sais dans quelle boîte elle est, est-ce qu'elle va à peu près et pourquoi est-ce qu'elle a été interviewée. Donc, déjà, c'est comme si tu disais, je veux pas aller voir un film parce que je sais pas quel va être le contenu et les acteurs. Ben, les acteurs, tu les connais déjà avant d'aller voir le film en général. Mais à l'intérieur, tu peux être surpris par certains acteurs que tu ne connaissais pas. Ben, ça peut être un peu de la même manière. Je pense qu'il faut prendre.
T'en penses quoi, Bruno, toi?
Non, mais c'est ça. Mais Philippe, un point, c'est que à la différence d'une production, par exemple, qu'on pourrait entendre à la radio ou voire à la télé, le podcast, il y a quand même un contexte. Il est où sur une chaîne de podcast, de balado auquel on est abonné, et il y a un descriptif qui vient avec, ou sinon il y a carrément sa page sur laquelle on arrive, et là il y a une mise en contexte, et donc on tombe directement dans l'entrevue. Mais c'est sûr qu'il faut être conscient de ça. C'est pour ça que de temps en temps, je me souviens de discussions avec des clients, je leur disais, mais vous avez pas besoin de tout mettre au début, vous pouvez rentrer dans le vif du sujet, parce que ce podcast-là va être entendu dans une fenêtre où il y aura un descriptif, dans un environnement, dans une page où on présentera la thématique de la série. Donc, gardez-vous un peu d'air pour donner du temps à votre invité puis à vos propos à l'intérieur.
Je crois qu'on est d'accord. Alors,
j'ai un exemple à vous donner de podcast super original qui fait justement des entretiens complètement différents.
Bah, on va parler de Pélénope Boeuf.
Non.
Bah, ils sont originaux, ces entretiens.
Ah non, mais je dis pas que c'est pas original.
Non, mais c'est un bon exemple aussi. On va en parler, tiens. Allez, vas-y, donne ton exemple.
Ouais, mais c'est l'exemple du podcast Heure Indue. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. C'est Johan Rock qui.
C'est pas Étienne Daho, ça, plutôt?
Ce podcast. Étienne Daho, quoi.
Tu connais pas la chanson d'Étienne Daho?
Ah, d'accord.
Non, mais Bruno, écoute, je pense pas que ce gars-là soit crédible. Il nous donne le nom d'un podcast et il ne sait pas qu'il y a un jeu de mots avec une chanson d'Étienne Daho. Désolé.
Demande-moi le nom d'un podcast.
Désolé,
j'écoute pas.
Tu vois comme quoi c'est important d'être crédible quand on parle d'un sujet. Enfin bon, continue.
Mais je n'ai pas de culture musicale. Moi, je suis totalement nul en musique.
Mais vas-y.
Mais il y a d'autres choses dans lesquelles je suis pas trop mauvais, mais en musique je suis désolé, je suis pas bon. Donc voilà. Et alors Heure Indue de Johan Rock, allez écouter ce podcast. C'est un espèce de polar, et à l'intérieur tu as l'interview d'une personnalité et vous m'en direz des nouvelles. Et après, il y a des manières de
parce qu'on est là aussi pour apprendre.
Mais je te dis, c'est un polar. Tu rentres dans l'histoire d'un polar, et à l'intérieur, c'est Johan Rock qui va, parce que c'est quelqu'un qui dort très peu. Il va demander à une personnalité de venir la nuit, de passer la nuit avec lui pour sortir, et il l'interviewe, et en même temps, il raconte une histoire. Qui est lié mais pas lié avec la personnalité, donc il raconte il y a une vraie histoire en plus de l'entretien avec la personnalité.
Bon, ben voilà, je suis accroché.
Et c'est un vrai polar.
Voilà. Je parlais de Pénélope Boeuf parce que elle aussi, tu vois, sans que les conditions de l'entrevue soient originales, en tout cas, c'est un face à face, on se parle, etc. Je trouve que elle a réussi encore une fois parce que l'origine.
Dans son dernier podcast,
l'originalité, c'est quand même une de ses spécialités dans son approche.
Mais elle est elle-même, exact, en fait. Elle est elle-même dans le podcast.
Pour ceux qui n'ont pas entendu. Ouais. Non, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'original dans son approche?
On va juste poser la table de ce truc-là. C'est un podcast d'entrevue, tout simple. C'est quelqu'un qui a fait une entrevue. Mais effectivement, les conditions, en tout cas, les questions qu'elle pose, la façon dont elle les pose, la synergie qu'elle met dans l'entrevue est complètement dingue. Donc, du coup, les gens racontent des trucs qui ont pas de rapport, qui sont complètement en dehors de leur, de ce qu'ils pourraient vouloir dire en réalité, qui sont très personnels souvent aussi. Donc, c'est très surprenant. C'est super dynamique, mais effectivement, c'est sa personnalité.
Oui, mais c'est le contenu qui est super dynamique, et c'est la manière qu'elle a de mener l'entrevue qui est unique. C'est pas le fait qu'il y ait des caméras et qu'il y ait des micros.
Non, mais le contexte
ça,
quand même.
En fait, tout le monde fait pareil.
Mais Philippe, le contexte quand tu fais une entrevue et le ton et l'approche, ça donne pas le même genre d'entrevue. Prends l'animateur du 20h, mêlé devant le même invité, ton invité, il va être stressé, tandis qu'elle avec sa paire de bas sur son micro, déjà on est plus
mais,
à l'aise.
Mais elle a tout compris parce qu'effectivement, elle a su très habilement mêler le marketing, l'originalité, pas l'impertinence parce que c'est pas ça, mais une sorte de liberté de ton comme ça, très très facile, à un modèle. Et là, je pense qu'elle caractérise tout à fait ce que tu dis, Philippe, c'est-à-dire qu'elle a renouvelé un modèle qui est ultra classique et parfois ultra chiant, l'entrevue, en allant justement mettre une petite dose de folie là-dedans. Alors, ça s'appelle « On tisse la toile ». D'ailleurs, j'ai vu passer un post il y a pas longtemps où elle dit que c'est déjà un succès d'écoute puisqu'on compte plusieurs centaines de milliers d'écoutes dès le lancement du podcast. Donc
ça pourrait être un thème, ça. Qu'est-ce qu'un succès?
Ouais, bon, ça, c'est un autre sujet.
Pour l'époque, je vous sors.
Non, ça, c'est un autre sujet. mais oui, mais on a chacun le succès qu'on souhaite ou qu'on espère. En tout cas, on se donne soi-même les clés de son propre succès ou les barèmes de paramètres de son propre succès.
C'est beau, ça. Tu devrais faire un t-shirt avec ça.
Ouais, peut-être. Ouais.
On se donne les clés de son propre succès.
C'est une bonne idée. Ouais.
On devrait un t-shirt.
Ouais,
le podcastologue.
Ouais. Je vous donne les clés de votre propre succès.
Ah. Ouais, un autocollant pour mettre sur ma voiture. Moi, j'aimerais ça.
J'ai des autocollants. Je vais aller les mettre sur ta voiture avant que tu t'en aperçoives. Mais revenons à notre mouton. Donc, voilà. Deux sujets.
Ouais, mais moi, je veux vous remercier pour les deux présentations de podcast, parce que ça, c'est intéressant.
Oui, parce que ça renouvelle le genre. Philippe, tu vois?
Ouais, mais c'est un boulot. Enfin, les deux, que ça soit Pénélope ou que ça soit, c'est un boulot de préparation, d'écriture. Bien sûr, elle est naturelle. Bien sûr, elle arrive à rajouter des choses dans l'immédiateté. C'est une super comédienne en fait, Pénélope, et elle le fait naturellement en plus, comme certains comédiens. Il y a des caméléons comédiens et puis il y a des comédiens qui arrivent à être naturels.
Elle fait quelque chose qui est essentiel dans l'univers du podcast, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je parle souvent, c'est d'utiliser ses fondamentaux. C'est de rester dans un périmètre où on se sent à l'aise. Oui, c'est bien de se mettre en danger. Oui, c'est bien d'aller essayer des choses nouvelles. Mais il faut le faire en se basant sur ce qu'on est capable de faire aussi, de pas faire se mettre à faire n'importe quoi. Et elle connaît certainement très bien sa personnalité, ou en tout cas elle sait très bien en jouer, et donc c'est très conforme, tu l'as dit tout de suite Philippe, c'est très conforme à ce qu'elle est comme personne ou qu'on imagine qu'elle est comme personne, parce qu'elle est peut-être pas comme ça finalement dans la vraie vie, mais il reste que cette énergie qu'elle dégage, ce petit côté foufou, personne à ressort là qui va sauter partout, etc., c'est l'image qu'elle construit. Et on la retrouve dans ce podcast-là. Donc, on est à la fois surpris et en même temps, on est dans un univers qu'on imaginait être celui dans lequel on va être. Donc, ça marche très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, elle a fait une entrevue avec Jean-Michel Apathy, qu'on peut pas considérer comme tu connais pas Philippe, hein, c'est un journaliste français, qu'on peut pas considérer comme quelqu'un de très très drôle, mais elle réussit quand même pas à le dépoussiérer, parce qu'il est pas poussiéreux,
elle l'avait déjà un peu fait dans son podcast.
C'est quand même un très bon exemple, et puis moi je vais aller écouter les heures indues, et toi Philippe, tu vas aller écouter heures indues de notre ami Étienne Dao pour agrémenter un peu ta culture musicale.
C'est pas juste, moi, ça m'en fait deux à écouter. Ouais.
Attends. Pas
ouais. Non, ok, je reprends le retard, c'est bon.
Bref, en tout cas, on peut pas être bon partout, hein, Philippe. Le format. Alors, une fois qu'on sait comment on va parler de son sujet, comment on va le traiter, comment on choisit son format? On n'invente rien, on s'entend, là, il n'y a personne qui invente complètement quelque chose. On recycle.
Non, encore une fois, c'est vraiment selon comment toi tu le fais, tu l'incarnes. Ouais. Tu l'incarneras jamais comme un autre. Si par contre, si tu essaies de copier, de faire quelque chose qui existe déjà parce que tu dis tiens, je vais faire comme ça. C'est comme il y a un mec qui est venu m'interviewer pendant le show il sort d'une école et il me parle naturellement très bien et puis d'un seul coup quand il commence à parler dans la caméra, il monte d'un octave et il fait bonjour, nous sommes maintenant, c'est le truc classique de journaliste. Et à la fin, je lui dis mais pourquoi est-ce que t'es pas resté naturel comme tu étais avant pour incarner beaucoup plus le truc. Mais ça, on n'apprend pas ça. Enfin, peut-être que maintenant, ça change un peu, mais on n'apprend malheureusement pas ça.
Et ça, c'est un peu ce qui fait encore la ligne de médiane entre la radio et le podcast. C'est le ton aussi. Ouais. La façon dont les gens s'expriment. Moi, j'ai vu des journalistes, ouais, des très grands et grandes journalistes faire du podcast au début et avoir un ton très journalistique. Et petit à petit, au fur et à mesure des saisons, s'ajuster et trouver un ton plus naturel, plus personnel, plus, tu sais, moins... et là, c'est le drame. Tu vois, je sais même pas vraiment bien le faire. Mais aujourd'hui, Paul est venu nous parler de son actualité. Cette actualité, actualité extraordinaire. Bon, et ça, c'est horripilant à l'oreille. Mais c'est pas de la faute d'un journaliste qui a toujours parlé comme ça et appris à parler comme ça.
Non, mais c'est surtout qu'il est obligé d'être dans ces cadres. Il est obligé, il est cadré par la direction d'antenne Radio France. Ils doivent tous faire exactement la même manière. RFI, pareil. En fait, ça fait partie aussi pour certains de la couleur de l'antenne que de. Mais après, il y en a et au service public qui lisent.
Mais c'est une question de culture, d'habitude. Tu lis en plus que. Au fond, le podcast est acculturé, donc il est différent. Tu voulais dire quelque chose, Bruno ?
Oh non, moi je suis bouche bée devant vos propos. je bois vos paroles.
Bon. Ben justement, puisque tu parles pas beaucoup, parlons de fréquence de parole. Ouais. Comment on choisit la fréquence à laquelle on va diffuser son podcast ?
Il faut s'écouter. Hein. Il n'y a pas une voix qui a la même fréquence.
Non, on parlait pas de ça, pardon, tu le sais très bien. C'est parce qu'il y a plusieurs enjeux là-dedans. Il y a d'abord le premier enjeu qu'on imagine, c'est qu'est-ce que mon public attend ? Est-ce que les gens s'attendent à ce que je publie toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois ?
Je t'arrête tout de suite. Sur le même principe que quand on parle du format, au niveau des rendez-vous, je pense qu'il faut d'abord penser à, égoïstement à soi. Qu'est-ce qu'on est capable de produire ?
C'était mon deuxième enjeu, non, en fait. Tu m'as scié la branche sur laquelle je m'étais gentiment assis.
Je salue l'oiseau que tu fus.
Que je fus,
parce que là, t'es tombé.
Oh, c'est beau. Je suis pas.
Ou continue. Que tu futes, si tu veux.
Que tu futes, c'est joli ce que tu futes. Ouais.
Cet épisode va pas être simple à suivre. Il y a deux enjeux. Il y a le premier enjeu dont je parlais qui est ce qu'on imagine que le public va attendre. Et puis le deuxième, comme tu dis, Bruno, avec tellement d'intelligence et de compétences qui te caractérisent, que c'est aussi la question de ce qu'on est capable de faire. Et ça, je crois qu'au fond, c'est ça le véritable enjeu.
Ben, d'abord, moi, je suis content de savoir que tu remarques mon intelligence. Ça, je pense qu'il faut que je le dise. Mais pour répondre à...
C'est surtout la compétence, mais bon, c'est pas grave.
Ah bon, accessoirement, ouais. Mais je pense qu'il faut d'abord, évidemment, si vous le faites de façon professionnelle, faut penser au client. Ça, on s'entend. Mais si vous le faites personnellement, ce podcast-là, et que vous décidez de vous embarquer dans cette aventure, pensez d'abord à vous, parce que sinon, vous tiendrez jamais le rythme de production. Combien de gens, je les compte plus, là, qui sont lancés. C'est la majorité des podcasts qui disent « Ah, moi, je vais sortir ça un par mois, puis au bout de 3 épisodes, c'est fini. » Puis c'est pire encore pour ceux qui décèdent à chaque semaine, puis sinon à tous les jours. Ça ne fonctionne pas. Si votre horaire ne vous le permet pas, si votre sujet ne vous le permet pas, et si évidemment, on marie tout ça, votre horaire et votre connaissance du sujet vous permet pas, parce que vous connaissez pas assez, vous allez devoir passer énormément de temps à travailler, à découvrir, à accumuler du matériel pour arriver à produire quelque chose.
Et c'est drôle parce que le fond et la forme se retrouvent ici. C'est que si on veut publier régulièrement, il faut pas aller vers une formule extrêmement compliquée parce qu'on va avoir un temps de production qui va être tellement long et compliqué que on sera pas capable certainement de le tenir sur la durée. T'as raison, Bruno. Souvent, on se dit à court terme sur les 3 premiers mois. Quand on regarde ça sur les 3 premiers mois, ça a l'air d'aller. On a 2 épisodes d'avance, tout va bien. On n'a pas chopé la Covid comme Philippe pour la 3e fois de l'année. Bref, on est dans les clous. Par contre, on commence, puis là, au bout du 2e mois, on a chopé la Covid, on a le petit qui doit aller au sport, on a perdu un fichier, on a un invité qui s'est décommandé.
Ah, ça va vraiment mal.
Et là, on commence à perdre les pédales. Et c'est là qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, très souvent, on voit des podcasts qui déraillent.
Alors, Philippe, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Heureusement que je veux dire quelque chose là-dessus, parce que je vais vous dire quelque chose qui va encore vous hérisser le poil.
Vous surprendre.
Où on vient quand même du milieu de la radio. Le milieu de la radio, c'est un milieu linéaire. Avec des rendez-vous.
On est
habitué à des rendez-vous. D'accord ?
Ah oui, tu veux dire en tant qu'auditeur,
en tant que okay. la télévision. Enfin, on a des rendez-vous, d'accord ? Et le podcast, l'essence du podcast, c'est la délinéarisation. Ça veut dire qu'on on arrête de mettre des chansons les unes après les autres ou des émissions les unes après les autres pour pouvoir les écouter quand on veut où on veut. Et là,
ça s'appelle aussi le streaming.
Oui, ça c'est la ligne. Oui, la ligne. Quand c'est linéaire, c'est streamé ou c'est un flux comme une radio FM ou DAB ou HD Radio aux États-Unis, peu importe. Mais là, le podcast c'est délinéarisé, c'est-à-dire qu'on a un fichier et ce fichier on peut l'écouter quand on veut où on veut. Et nous, en tant que podcasteurs, on se dit allez, on va le refaire toutes les semaines. Mais ça sert à quoi?
Ah, je l'ai pas vu venir.
Ça sert
celle-là.
À quoi de faire un podcast toutes les semaines alors qu'on sort un truc où on était déjà dans des rendez-vous et si on écoute ça, c'est justement qu'on veut pas aller dans des rendez-vous.
Bah alors ça, mon vieux, je pense que c'est une vaste question parce que j'ai quand même l'impression que si les gens n'aiment pas être obligés d'aller suivre quelque chose à une heure précise, il n'empêche qu'ils sont très friands du rendez-vous. C'est quand même, tu vois que les podcasts qui sortent
alors,
à
regarde tes stats.
Régulière et c'est pas Bruno
regarde
qui va
tes stats.
Qui va me
regarde
contredire.
Tes stats. Non, je dis pas ça. Monsieur. Regarde tes stats à publication de ton épisode. Combien de tes auditeurs, après publication d'un épisode, écoutent dans l'heure, les 3 heures ou les 5 heures qui suivent. Donc, ou le lendemain, ou le jour d'après, ou le jour d'après après, ou le jour de, ou 2 semaines, ou 3 semaines plus tard.
Oui, mais.
Honnêtement, ils s'en foutent.
Il est remonté, hein. Ben oui, ils s'en foutent. Non, c'est vrai, Bruno,
ça,
il brûle
dépend,
de parler.
Ouais.
Ils s'en foutent, mais il leur faut quand même une échéance parce que si je leur livrais 40 épisodes, d'un coup,
il y en a
la moitié qui serait pas écoutée.
Il y en a qui sortent des séries entières d'un seul coup.
Oui, mais des séries de 6, 8, 9.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est une.
Il n'y a pas de règle.
Alors, Bruno.
Et ça dépend.
Non, il n'y a pas de règle. Je pense que le rendez-vous est important quand même.
Oui. Ben, ça dépend du type de la production. Si c'est une large série, ben, tant mieux et tout le monde sera heureux si on peut l'avoir en même temps parce que ça nous permet de faire du binging audio. Par exemple, moi, ma frustration avec les œuvres de Stéphane, c'est que je dois me taper, je dois attendre. J'aimerais ça les écouter tout d'un coup. Et quand ça sort sur les grandes plateformes commerciales, j'aime ça parce que, bang, je les ai tout d'un bout. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui fait un podcast comme le mien, qui suit l'actualité, ben, évidemment, c'est des rendez-vous. Dans mon cas, c'est hebdomadaire. Et je le vois, c'est intéressant, Philippe, ce que tu dis, parce que je vois que je le mets en ligne le vendredi et je leur donne rendez-vous à vendredi prochain. Mais je sais que c'est pas la majorité des
exactement.
Gens qui vont l'écouter.
Et en
le
plus,
vendredi,
tu les trompes.
Mais c'est en
tu
ligne.
Les trompes.
Le
oui,
vendredi,
mais il faut qu'ils soient en ligne à un moment donné.
Parce que il te dit, bienvenue, on est vendredi. Alors que non, il l'écoute le dimanche ou le lundi.
Ah non, mais attends. Je suis quand même habile parce que dès le départ, au début de l'émission, je leur dis bonjour, bonsoir.
Oui,
exact.
Oui.
Ah, quand même.
Ah oui, non.
Mais ça, c'est parce que, t'es québécois. C'est parce que tu sais qu'il y a un décalage horaire. Donc tu dis, c'est pour ça. Mais je sais que c'est ça en plus.
C'est parce qu'il sait qu'il est écouté le jour au Québec
mais
le soir
mais bien
en
sûr, mais c'est
ou inversement.
Sûr, mais oui,
il est très fort. Bravo, Bruno.
Alors, ouais donc n'importe quoi. Donc, on poursuit. Mais sachant ça, sachant qu'il y a du décalage, je le regarde. Et par exemple, je sais que ça sort le vendredi et je le dis pour habituer les gens, pour qui, de toute façon, depuis le temps, ils sont habitués que c'est le vendredi. Mais je sais que pertinemment que le gros de mon écoute, je vais l'avoir la fin de semaine et le lundi. Parce que les gens reviennent au bureau, puis il y a des gens qui parlent. Mais j'ai mon auditoire du samedi matin qui m'écoute en faisant du ménage, et j'ai mon auditoire du dimanche soir parce qu'ils retournent travailler, peu importe où ils sont sur la planète, et ils ont une heure et demie de compagnie.
On est d'accord,
c'est
on
ça.
Est d'accord
non, mais,
faut que, enfin, je,
ouais. Il est
oui,
un peu intégriste,
je pousse un peu le bouchon. Le
podcastophile, ouais, il nous provoque.
Ah, bientôt je vais qualifier d'ayatollah du podcast.
Je pense
non,
que la place a déjà
je
été la place
ce que,
la place
ce que je veux dire
déjà,
c'est que
pardon.
C'est un mélange entre ce que dit Bruno et ce que tu dis Stéphane, c'est-à-dire qu'il y a oui, c'est bien d'avoir un rendez-vous, mais est-ce que on doit s'obliger? Tu vois, c'est un peu ça la grande question, c'est est-ce qu'on doit s'obliger? Et on a des exemples quand même aux États-Unis, vous êtes pas loin, de grandes stars. S'ils ont envie de sortir 2 épisodes, sortent 2 épisodes la même semaine, et s'il n'en fait pas pendant 2 semaines, il n'en fait pas pendant 2 semaines.
C'est vrai, mais la réponse est dans ta phrase, c'est que c'est des grandes stars. C'est
mais
que
Bruno
si
est une grande
un
star
podcast,
de ses auditeurs.
C'est vrai. Oui, en termes de d'écoute.
Non, mais de ses auditeurs.
Oui,
tu es la star de tes auditeurs. Nous, on a des auditeurs qui nous considèrent comme des stars. Bon, non, je rigole. Hein,
mais non, mais t'as raison. T'as un point. Non, mais c'est un bon point. Il y a plusieurs choses. Moi, je crois que c'est important de jouer sur le rendez-vous, de le jouer intelligemment, c'est-à-dire qu'en sachant que c'est pas le jour où tu es à l'heure où tu vas libérer ton épisode que tout le monde va se jeter dessus et qui va être écouté à 100%. Mais c'est quand même un moment, moi par exemple, en tant qu'auditeur, oui, j'attends le matin quand je vais dans la salle de bain me laver les dents, j'écoute Info Bref, qui est un podcast d'actualité qui est quotidien, et je suis content qu'il soit là le matin parce que je l'écoute à ce moment-là de ma journée où je fais pas autre chose. Plus tard, je commence à faire mon café, j'écoute par exemple Bruno qui a peut-être publié la semaine d'avant, et souvent même j'écoute avec du retard deux semaines après, et Bruno a l'intelligence, et ça je le recommande aux gens, de republier souvent des choses qu'il a déjà mises en ligne longtemps à l'avance. Et ça, c'est un point quand même clé, c'est que ces contenus-là, ils se fatiguent pas, tu sais, ils ne s'usent pas. Donc, quand tu as des bonnes entrevues, une semaine après ou deux ton entrevue, tu peux en reparler, tu peux la republier, elle va être très réécoutée aussi. Donc t'as raison aussi là-dessus, sur le fait que il y a ce côté sans fin dans la non linéaire dans l'écoute du public, mais il faut quand même poser un rendez-vous d'une part. Puis bon, quand t'as un podcast d'actualité, quel qu'il soit, il faut que tu aies un rendez-vous d'actualité. Ça, c'est une chose.
Sommes-nous représentatifs des auditeurs ?
Non, bien sûr que
je,
non.
Je me pose la question.
Non, on n'est pas là pour prétendre ça non plus.
Si ton podcast, moi, il y a des podcasts qui sortent pas des fois des semaines que j'ai envie d'écouter. Je vais voir un peu plus tard, et s'il y est pas, j'y retourne, j'y repense au bout d'une semaine. Si par contre il s'arrête pendant un mois, je me dis bon ben là c'est fini. Donc en fait il y a une espèce de d'équilibre à trouver, et surtout de message à passer. C'est-à-dire que si tu es clair et si tu es tu annonces à tes auditeurs auditrices que il est possible que ce soit que dans trois semaines qu'on se revoit, ça change la donne aussi, et ça les avertit que il va y avoir peut-être une période dans laquelle tu publieras moins.
Et ça, c'est un élément clé aussi qui est important, c'est quand tu fais une pause, d'assumer que tu fais une pause. Si tu n'arrives pas à suivre ton rythme, si tu changes de timing, par exemple cette année le podcastologue est mensuel alors qu'il était toutes les deux semaines l'année dernière. Pourquoi ? Parce que j'ai créé un autre podcast. Je réalise de temps en temps que j'anime trois podcasts en même temps. Donc, ça fait quand même beaucoup de travail, plus deux compagnies, une compagnie de production et une agence de publicité. C'est un planning relativement chargé. Donc, j'ai décidé que le podcastologue avec vous serait tous les mois. Alors, on l'annonce, on revoit un peu le format, on essaye de proposer des choses nouvelles. Faut pas avoir peur de le dire aux gens, de l'expliquer. Et si on est trop surchargé, si on fait une pause, t'as raison, Philippe, je t'avais entendu en parler d'ailleurs une fois il y a longtemps, de dire clairement, vous savez quoi, là je vais faire une pause, puis je vais revenir. Les gens comprennent ce genre de choses.
Mais il y a une promesse qu'on donne aux auditeurs, aux auditrices, et cette promesse-là, si on la rompt, obligatoirement, ça pose question, ça pose problème, et si ça dure trop longtemps, ben à partir de là, on perd l'auditoire. Mais encore une fois, je pense que si c'est expliqué, c'est à moitié pardonné.
Ah, oh, c'est beau ça aussi. Tu pourrais faire un t-shirt avec ça. C'est presque du
on va en faire des
presque
t-shirts.
Du stoïcisme. Donc la conclusion. Je reprends. Qu'est-ce que c'est ce podcast de France Inter qui parle d'histoire là où l'animateur a une voix radiophonique d'ailleurs, mais il est très bon. J'ai beaucoup. Il fait ce qu'on doit retenir de cet épisode. C'est une formule assez particulière qu'il a. Je me rappelle plus de son nom. Il est très connu. Bref. En tout cas, la conclusion de cette partie de la discussion, c'est que si vous décidez d'un format, essayez de vous y tenir. Surtout, soyez francs avec vous-même, ne vous mentez pas. Prévoyez des épisodes à l'avance, backez-vous. Faites si possible un ou deux épisodes d'avance ou trois de sujets froids, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne sont pas d'actualité, que vous allez pouvoir caler si jamais vous avez un problème une semaine ou un mois pendant la sortie de votre épisode. Si vous devez vous mettre en pause, signalez-le et assumez-le, dites-le vraiment. Et puis, un point quand même, une stratégie que moi je vois, oui, Bruno, je vais te donner le micro. C'est une stratégie que je vois mettre en œuvre et qui est assez efficace, c'est que si vous sortez une série d'épisodes, je vais prendre par exemple l'exemple de mon nouveau podcast Contre-enquête, et je profite pour faire la promotion de cet excellent contenu sur l'univers du True Crime, que je vous recommande d'aller écouter sur toutes les bonnes...
Ouais, il faut que j'aille l'écouter, je suis désolé, j'ai pas encore
Philippe
écouté.
Philippe Chapeau ne l'a pas écouté, donc en fait il n'existe pas ce podcast, Philippe Chapeau l'a pas écouté. Donc, non mais Contre-enquête, c'est un format particulier, je me suis vraiment donné un challenge avec ce projet-là. Je me suis dit, je vais créer des épisodes courts de 3-4 minutes, en fait je suis plutôt autour de 5-6 minutes, ça s'appelle 300 secondes de crime, mais au fond je suis plus des fois à 6-7 minutes. J'ai du mal à tenir le truc parce que c'est vraiment très très resserré, mais c'est quand même déjà un challenge de raconter une histoire criminelle en si peu de temps. Et je me disais, est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont aimer, mais je voulais tenter un truc nouveau, tu vois. Quand j'ai écouté ton Philippe, et je me suis dit, allez, je vais aller vers un truc un peu plus audacieux. Ça s'est jamais fait, du true crime en quelques minutes. Je vais essayer de le faire. Je vais me rajouter une couche qui est de dire, je vais l'ancrer dans soit une actualité sociale, soit un fait historique, soit un truc en lien avec les sciences criminelles. Et puis, à côté de ça, je vais faire des épisodes un peu plus longs, mais le cours, là, le 300 secondes, il va être hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait un an et demi que j'y travaille. J'ai 47 histoires qui sont écrites, rédigées, enregistrées en grande partie. Et donc, j'ai déjà mon stock. Donc ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise maintenant quand j'ai ce projet-là. Et aussi, donc, la stratégie dont je voulais parler, c'est que il est important d'accrocher l'auditoire dès le début. Donc, sortir 2-3 épisodes. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Radio-Canada, avec Radio France et autres. Ils sortent une batch de 2-3 épisodes pour que vraiment vous compreniez le contenu, la nature du truc, pas que vous vous fiez à un seul épisode, mais que sur 2-3 vous puissiez comprendre un peu où est-ce que ça s'en va. Et c'est une très bonne stratégie parce que ça permet de se dire, ok, je vois où s'en va le projet, ça me plaît vraiment, je vais m'abonner. Voilà, Bruno, je te passe la poque.
Non, ben je voulais simplement mentionner un truc, mais ça c'est probablement des gens qui sont en production qui pensent à cette approche-là. Il y a aussi l'idée de produire le même jour ou au même moment quand vous rentrez en studio plusieurs segments que par la suite vous pourrez diffuser ou quotidiennement ou hebdomadairement ou même mensuellement. Mais donc utiliser une seule session d'enregistrement pour faire 2-3 émissions, et ça aussi c'est une économie de temps. Alors quand vous avez un horaire qui est plutôt chargé, si vous faites un rendez-vous où là vous pouvez en faire 2-3-4, ben c'est tant mieux.
C'est vrai que à propos de la mutualisation, et ça c'est un très bon exemple de mutualisation, il y a aussi la mutualisation des moyens de préparation de l'épisode. Moi je vous recommande d'utiliser un Google Doc sur lequel vous allez avoir un script de votre épisode, script que vous copiez-collez à chaque épisode, parce qu'au fond, ça se ressemble quand même un peu, mais vous avez déjà une trame. Vous pouvez rentrer vos sujets de l'épisode, vous pouvez rentrer l'actualité. Bah, Philippe et Bruno, vous allez me parler de sujets d'actualité aujourd'hui. J'ai déjà dans ma trame ce dont vous allez me parler, mais j'ai aussi mon texte, qui est un script qui est quasiment toujours le même, sur lequel je peux varier, mais c'est déjà un gain de temps énorme que de copier-coller du script, d'avoir les liens, tous les liens qu'on utilise dans son épisode préparé à l'avance, etc., etc. Donc tout ça, c'est un travail de préparation que vous faites une bonne fois pour toutes et qui vous permet de gagner énormément de temps. D'ailleurs, à propos de temps, je vois qu'il a filé très très vite, et Bruno, en bon professionnel du sujet, tu savais qu'on n'arriverait pas au bout de cette thématique. Alors, on va s'arrêter là, on va s'arrêter sur ce choix du timing de publication, de la façon de le faire. Et puis, je pense qu'on va, on gardera le reste pour un autre épisode, qu'on n'enregistrera pas aujourd'hui, mais on le gardera pour un autre épisode. Puis, on va passer à notre actualité. Alors, notre actualité du jour, bon, Philippe, ton actualité, on t'a pas trop laissé le choix. Il faut que tu nous parles du Paris Radio Show. Tu veux quand même nous parler d'autre chose. On va commencer avec toi, Philippe. J'aimerais, si tu veux bien, que tu nous parles du Paris Radio Show dont tu sors. Là, t'as encore les oreilles pleines de
ça
son.
Fume.
Hein, ça fume. Alors, raconte-nous.
Ouais, ça fume.
Qu'est-ce
encore.
Qui s'est passé? Comment ça s'est passé?
Eh bien, on est suite au dernier Paris Radio Show de 2022 où on est sorti de ce salon avec enfin tous les visiteurs, les exposants avec le sourire, ça s'était très bien passé, sauf que le lieu était assez coûteux et donc ça a été très dur de pouvoir redémarrer et surtout de trouver un nouveau lieu. On a changé 3 fois de lieu et là on a trouvé un lieu pour repartir sur un salon à taille humaine, convivial, festif, où on s'est dit qu'on voulait se retrouver comme on le faisait en 2010, 2012, c'était dans des petits espaces. Donc alors c'est pas un petit espace, parce que la Bellevilloise, donc c'est dans le 20e, quartier Ménilmontant, à côté du Père Lachaise, un lieu très connu pour des concerts et pour beaucoup d'événements. Ils en font plus de 500 par an. Et là, on l'a privatisé en totalité sur donc ça fait quand même 2000 mètres carrés au total. Donc il y a quatre ou cinq espaces. Dans chaque espace, il y a un bar et donc ça permettait de pouvoir vraiment de croiser tout le monde et de si on se croise dans l'allée, on est obligé de se dire bonjour. Et en fait, c'est ce qui s'est passé.
Donc il y a c'est-à-dire un côté quand même acteurs, où on peut réunir beaucoup de monde, mais ça reste à échelle humaine. Là. Ça reste à taille humaine.
C'était complètement à taille humaine. Donc on avait une session de un panel de conférences et de débats où on pouvait avoir jusqu'à 150 personnes dans la salle. C'était plein d'ailleurs sur les 2 jours la partie panel. Et ensuite, on avait fait des expériences silencieuses avec des casques. Vous savez, ces casques Silent Disco. Sur des expériences un peu plus ciblées avec vraiment des pointures qui sont venues nous parler, notamment le patron d'Engel qui était là et les acteurs du podcast qui étaient aussi présents. Je vais pas tous les citer, mais vous les verrez aussi dans le catalogue visiteur, puisque le catalogue visiteur en fait c'est la lettre pro de la radio, et dans ce catalogue vous avez un dossier à la fin avec des entretiens qu'on a réalisés pour le salon et pour la lettre pro de la radio. Au lieu de parler de chiffres, nous on a fait parler les personnes. Et donc, je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ces pages à la fin du catalogue visiteur, mais c'est assez intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Donc en fait, on a réuni pratiquement 4000 personnes, 3500 visiteurs sur 2 jours. Les exposants sont tous repartis très heureux et on a essayé de mélanger bien sûr les univers de l'audio, de la radio et du podcast. Ça a été plus compliqué de fédérer les acteurs du podcast.
Et j'allais dire, c'est le sujet au cœur de cette actualité-là, c'est le sujet qui fâche. Pourquoi c'est difficile de réunir podcast et radio? Moi, j'ai une petite idée, mais je suis sûr que tu en as une aussi.
Pour certains acteurs, le mot radio, c'est un gros mot. Et pour d'autres acteurs, ils ne se connaissent
podcast
pas.
Podcast est un gros mot pour d'autres aussi.
Pas trop, parce que pour les acteurs de la radio, le podcast n'est pas un gros mot, puisqu'ils en font quand même un sacré business, du podcast replay. Et ils s'en sortent plutôt très bien. Donc, il n'y a pas de ce côté-là. Mais par contre, ils ne veulent pas forcément entendre parler, ou ils n'ont pas le temps d'aller écouter, d'être curieux et d'aller écouter les podcasteurs. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réunir ces gens dans différentes rencontres. On a fait une rencontre qui s'appelle Podcast plus Radio égale Love, où on a essayé de faire... Et on était très heureux de voir que la patronne de France Bleu était là sur ce meet-up avec des podcasteurs pour discuter avec eux et de pouvoir essayer de trouver des modèles, que ce soit sur la partie économie, la partie éditoriale, la partie technique, la partie aussi synergie. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui, une radio comme France Bleu peut éventuellement travailler avec des podcasteurs natifs?
C'est drôle, je réalise, et ça fait quand même un petit bout que je te connais, que Philippe a cette obsession de rapprocher la radio et le podcast. C'est que on dirait qu'il essaye, tu sais, de concilier les deux parties de son cerveau et qu'il s'est donné la sainte mission de faire en sorte que le podcast et la radio s'aiment et forment un même univers serein et harmonieux.
Ben, le grand tour de la France l'année passée, c'était ça, hein? D'essayer de faire rencontrer ces gens-là. Moi, je trouve ça bien de sa part.
C'est d'une certaine façon, c'est un peu comme le gourou de la radio podcast.
Non, mais si vous voulez.
Ou de la podcast radio.
Mais d'où vient cette obsession, Philippe? D'où vient ce besoin de réunir ces gens-là?
Non, mais ce qui est en train de se passer, c'est que les radios sont dans un déni de dire que tout va bien et qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont les plus grandes audiences. Or, on sait pertinemment que les paires d'oreilles, elles partent ailleurs, elles écoutent autrement. Et elles peuvent aussi écouter du podcast Replay ou elles peuvent aussi écouter des podcasts natifs, des radios. Donc, dire qu'on fait pas le même métier, c'est complètement aberrant. Et ne pas être capable de discuter, de connaître ces modèles économiques mutuels, parce qu'on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une radio, un directeur des programmes ou un patron de radio, à part quelques-uns, hein, je ne les citerai pas, mais à part quelques-uns, n'ont aucune idée du modèle économique des podcasteurs natifs et des studios de production. Et les studios de production ne savent absolument pas comment fonctionnent les radios et quel est le modèle économique de la radio. Donc déjà, comment vous voulez qu'ils s'aiment bien puisqu'ils ne se connaissent pas? Donc c'est pas de dire « je veux absolument réunir les univers », c'est que je trouve que c'est complètement idiot et que ça peut être constructif et pour les uns et pour les autres. Là, de l'étude dont je vais parler tout à l'heure, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Or, les radios ont aujourd'hui un modèle économique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses intelligentes qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses intelligentes que les radios peuvent apprendre des podcasteurs natifs parce que eux ne viennent pas forcément du sérail de la radio et ont peut-être des manières de concevoir des contenus audio qui sont concernants, qui sont incarnés, là où la radio ne l'est plus ou l'est moins.
Il y a aussi la méthode. Moi, je pense que c'est sur la méthode qu'il y a beaucoup à apprendre du point de vue de la radio, de l'univers du podcast, parce que les podcasteurs sont partis souvent de zéro et donc ils ont recours à des solutions, que ça soit des solutions logicielles, que ça soit des solutions technologiques, qui sont beaucoup plus innovantes que l'univers de la radio. On le comprend, c'est un univers qui s'est formé sur des fondamentaux qui sont bien plus ancien et qui a plus de mal à évoluer. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup à apprendre. Puis, le podcast, ça, il faut le dire aussi, le podcast a aussi à apprendre de la radio en termes de qualité de production. Je reviens toujours à ça. Moi, c'est mon obsession à moi. La qualité du son, je vois encore sur LinkedIn et ailleurs des posts qui disent « lance-toi dans le podcast, un simple téléphone suffit ». Oui, je sais que l'iPhone, Bruno, a des micros d'une qualité exceptionnelle et que c'est formidable et c'est merveilleux, mais je n'écouterai pas, et je pense que c'est pas que moi, puisque les statistiques le disent, les chiffres le disent, on parle de 80 et quelques pourcents de gens qui sont sensibles à la qualité sonore d'un contenu aujourd'hui. Donc, il faut pas faire du travail de mauvaise qualité sonore. Donc, il faut s'inspirer de ce que fait effectivement la radio qui est très sensible à ce sujet-là. Bref, tout ça pour dire que, et on est d'accord là-dessus, oui, on peut à la volée de temps en temps faire une entrevue, mais c'est quand même pas difficile d'avoir un minimum de matériel de qualité. Voilà.
Oui, alors, donc pour terminer, tout le monde, alors pas tout le monde, parce qu'il y a quelques couacs, mais on est comme toujours, hein, c'est obligatoire, mais écoute, 3500 visiteurs sur deux jours, une nocturne avec quatre artistes et un showcase vraiment très apprécié des directeurs des programmes et des maisons de disques qui sont venus de 20h à 22h, et puis une soirée après avec les exposants de 20 jusqu'à 23h30 et un DJ qui est venu. Donc on a vraiment passé de très bons moments avec 80 exposants, donc plus qu'en 2022, et puis des espaces très simples, très très conviviaux. Voilà, donc l'année prochaine, on devrait, si tout se passe bien, repartir à la Bellevilloise pour l'édition 2025.
On va mettre ça
en février.
Super. Parle-nous très brièvement du podcast magazine. Ça y est, est-ce que Bruno et moi, est-ce qu'on doit regarder par la fenêtre en attendant le postier?
Oui. Ça y est, c'est parti. C'est enfin parti de France. On a eu un peu, on voulait l'envoyer encore plus tôt et malheureusement le Covid nous a terrassé à deux cette fois et pas que moi. Donc,
est-ce qu'on sait où est le bateau?
Le bateau doit être à peu près, tu vois la Chine. Voilà. Bon, on est à peu près par là-bas.
J'aurais plutôt pensé qu'il était du côté
par là.
De Dunkerque.
Ouais, non, là, ouais. Sur le coup, c'est vrai qu'on a fait vraiment, vraiment traîner le bébé. Mais il est bien là. Il y en a qui ont déjà des exemplaires puisqu'ils sont venus le chercher au Paris Radio Show.
De toute façon, Philippe, on n'est pas pressé. On va mettre un an à le lire tellement il y a du contenu dans ce magazine.
Mais c'est ça, vous n'avez pas encore fini le dos.
J'ai fini quand même. Mais je recommande à tout le monde de s'abonner. Il n'est jamais trop tard pour le commander. On s'entend bien là-dessus. Les gens peuvent.
Jamais trop tard. Et vous avez un des articles exclusifs, dont un sur les audiences.
Ah, ça va nous intéresser. C'est superbe tout ça. Bruno, est-ce que tu avais une actualité dont tu voulais nous parler qui est plutôt drôle, ben, malheureusement, enfin drôle dans c'est pas le mot, ça fera pas rire tout le monde.
C'est Spotify qui nous a appris très très récemment que tous ces outils qui étaient là pour faciliter la vie des podcasteurs sur sa plateforme, ben disparaissaient. Donc Music and Talk, Voice Message, Record with Friends, Background Music and Sound, tout ça pouf, ça disparaît parce que pour se disculper, les gens de Spotify ont annoncé un partenariat avec Riverside. On s'entend, ça fait rien de ce qu'ils enlèvent, mais c'est un partenariat qui va permettre aux gens d'utiliser un outil de qualité qui normalement vous coûte quand même des sous, mais c'est quand même triste pour, je pense, à tous ces podcasteurs à travers le monde qui utilisaient ces différents outils pour faire leur production, puis là, ben, ils les voient voler en éclats.
Non, mais quel foutage de gueule.
Ils ont vraiment piégé des gens dans des solutions de montage gratuites. Bon, alors...
Non, mais quel foutage de gueule. Et en plus, ils gagnent parce qu'ils prennent un pourcentage sur Riverside. Et ça, c'est quand même un enfer.
Ah, heureusement que t'es là, Philippe, pour dénoncer ces choses abominables.
Non, je dénonce pas, je constate. Et c'est qu'un début, hein, les amis. Hein.
Bah, c'est pas le début parce que ça a déjà commencé depuis un petit moment. Mais ce qu'on peut conseiller aux gens, et ça, il faut quand même aussi être clair avec les gens qui se lancent ou qui débutent dans le podcast. Tu peux pas utiliser des formules gratuites, des solutions non payantes et espérer qu'à un moment donné, ça va pas devenir payant ou ça va pas se rabattre sur autre chose et t'envoyer sur une formule payante. Faut le savoir. Tu peux l'essayer. Je veux dire, chacun, c'est une très bonne idée de tester des outils, etc. Mais à partir du moment où tu lances ton podcast, d'abord, on en a déjà parlé, assure-toi que tes contenus restent bien en ta possession, que tes fichiers audio restent bien en ta possession, qu'ils soient pas stockés quelque part où un jour ça pourrait disparaître et que tu récupères rien. Et aussi, les solutions de montage que tu utilises, bah, va vers une solution payante. Ça coûte peut-être 100, 200 balles à l'année. Il y a des solutions qui sont très complètes, mais au moins, t'as la garantie que ça va perdurer et que tu vas pas te retrouver à perdre. Parce que Spotify, c'est là où c'est très lourd de conséquences. C'est que oui, les gens perdent les outils et j'ai vu des gens désespérés. Je ris, mais c'est pas drôle. J'ai vu des gens désespérés qui faisaient des statuts en disant « Mais qu'est-ce que je vais faire ? J'ai fait tout mon montage jusqu'à maintenant sur l'outil de Spotify. » D'une part et d'autre part, ce qui est plus grave que ça, c'est la musique. Ils suppriment l'accès à leurs fichiers musicaux qui étaient offerts dans le cadre de cette offre gratuite. Donc du coup, ceux qui utilisent cette musique-là, ben, ils auront plus accès à ça. Pouf, ça disparaît. Alors que tu pouvais faire appel à des solutions d'achat de musique. Il y en a 36 000 des sites du genre. Plus ou moins cher, et là au moins tu étais sûr de posséder ton contenu à vie. Là. Donc c'est vraiment.
Mais ça se rapproche de l'histoire d'Apple et de la retranscription. Hein. C'est pareil. Hein. On n'est plus propriétaire de sa transcription si on valide les conditions générales d'Apple sur la transcription.
C'est vrai. Ça aussi, c'est une réflexion à avoir. Est-ce qu'on doit créer sa propre retranscription vous faites le lien avec mon prochain sujet, mais est-ce qu'on doit créer sa propre retranscription et être maître de son contenu, y compris le texte de son podcast? Je pense que oui, c'est une bonne solution. L'implémenter soi-même dans son hébergeur pour pouvoir en rester propriétaire.
Ou attendre le RSS 2.0 qui intègre tout ça nativement dans le flux RSS.
Possible que ce soit aussi la bonne solution. Ben, en fait, non. Moi, ce dont je veux parler, puis on est tout à fait en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est deux sujets. D'abord, je vais commencer par le sujet qui concerne Scribecast, qui est notre partenaire, le partenaire du Podcastologue. Pourquoi, d'ailleurs, je précise, pourquoi je suis partenaire avec Scribecast? On est, puisque vous êtes aussi le Podcastologue, pourquoi on est partenaire avec Scribecast? Parce que, bon, c'est un outil français. C'est un gars, Michael, qui a développé son truc tout seul, qui a fait, en travaillant dans son coin, un outil de très grande qualité. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la qualité de la retranscription. Et aussi, ce que j'aime beaucoup chez lui, ce qui est vraiment me fascine, et pour moi, c'est une grande qualité chez les gens qui entreprennent comme ça, c'est qu'il est sans cesse en train d'ajuster son produit. Il est sans cesse en train de trouver des solutions pour faire évoluer son contenu. Ça, c'est vraiment chouette. Et justement, Scribecast a encore évolué, 30% de vitesse de retranscription en plus, le choix de la langue implémenté par défaut. Ça, c'est une petite remarque que je lui ai passée en lui disant, en fait, quand tu télécharges ton fichier dans Scribecast, il se upload assez rapidement d'ailleurs, mais tu as ensuite l'obligation de faire le choix entre la langue de retranscription, le français et l'anglais. Étant donné que Scribecast est une solution française, que 90% de sa clientèle ou 99% de sa clientèle est française, je lui disais pourquoi c'est pas par défaut le français. Comme ça, une fois que c'est uploadé, ben on évite une étape de cliquage pour aller sélectionner dans un menu déroulant, etc. Il m'a dit ah oui, très bonne idée. Une semaine après, c'était fait. Non, c'est quand même assez impressionnant. Donc, on n'a pas le besoin d'aller choisir la langue. C'est par défaut la langue qui est choisie. Et puis, il a repensé son dashboard, là, son contenu. Il a avant devait dérouler pour aller choisir les différentes possibilités des posts LinkedIn, etc. Il l'a fait des onglets, ce qui est beaucoup plus facile parce qu'on a tout sous les yeux. Il a optimisé la génération des posts LinkedIn et il a mis un éditeur, ce qu'on appelle rich text, vous savez, qui permet d'avoir une mise en forme des textes plus facile. Bref, il n'arrête pas d'innover. Je vous parle même pas de la mise en forme automatique des articles de blog et des newsletters. Bref, c'est une formule. Ce gars-là est une fusée. Sa formule est déjà très très bien faite. C'est vraiment, je suis très très heureux, très fier de parler de cette actualité-là.
Non, c'est un bel outil. C'est un très bel outil. Moi, je l'ai utilisé beaucoup pour faire des retranscriptions d'interviews.
Et oui, on peut l'utiliser pour tout, pas uniquement pour son podcast. T'as un audio, tu l'utilises aussi.
Et je pense qu'il y a un marché pour cette partie-là, la partie interview pour des journalistes qui ont besoin de travailler un peu plus vite. Parce que quand on fait ça et que derrière, on utilise après, il faut le faire intelligemment, mais on utilise d'autres outils d'intelligence artificielle, eh bien, ça permet de gagner un temps vraiment très, 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 très important, surtout quand la transcription est assez est de qualité.
Vraiment, elle est de qualité et les
on change deux trois trucs. On change deux trois trucs à chaque fois.
C'est ça.
Alors que sur les autres outils, c'est 15,
c'est une grosse
20,
partie de réécriture.
Des fois 30, 40.
Exact. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, à propos de technologie, d'avancées technologiques, bah il y a Ocha qui ont fait un coup de dé en avant très intéressant avec ce qu'ils appellent le Podcast Search Optimization, le PSO. Là, c'est le contrôle panel d'Ocha. Alors le contrôle panel d'Ocha, c'est quoi en fait? Et ça joue dans un volet qui moi me tient beaucoup à cœur, qui est la découvrabilité. C'est la capacité que vous avez maintenant quand vous êtes évidemment hébergé par Ocha à aller sélectionner vos mots-clés, à aller choisir les meilleurs mots-clés, les plus pertinents, les plus en vue en fonction justement de l'évolution des mots-clés en SEO pour que vous puissiez ajuster les mots-clés sur votre podcast quasiment en temps réel avec un retour sur la visibilité de ces mots-clés, donc le positionnement de chacun des mots-clés. Est-ce qu'il est dans les premiers? Est-ce qu'il rank, comme on dit, dans les premiers de sa catégorie ou pas? Bref, c'est quand même vachement intéressant. C'est sûr que ça n'est qu'une partie, et ça, il faut le dire aux gens, hein, ça n'est qu'une partie de l'optimisation, parce que il faut savoir que l'optimisation de votre podcast, en termes de métadonnées, c'est aussi le choix du titre des épisodes, le choix du contenu dans les épisodes. Je vois beaucoup de podcasts où il y a trois lignes sur le contenu de l'épisode. C'est une erreur. Si vous avez des invités qui sont connus, qui sont prestigieux, si vous êtes dans des endroits qui sont connus, si vous abordez des sujets particuliers, il faut que tout ça soit mentionné dans votre contenu d'épisode parce que ça permet de l'identifier pour la recherche et on sait que de plus en plus de gens font des recherches par mots-clés. Ça va aider à la découvrabilité de votre contenu. Mais là, ce contrôle panel, je trouve que c'est une très belle avancée de la part d'Ocha qui, d'ailleurs, il faut le dire, est quand même l'un des fournisseurs d'hébergement qui offre les solutions les plus complètes. Alors, je me suis déjà plaint de certaines petites choses parce que c'est de la technologie et que de temps en temps, il y a des petits loupés, mais il reste quand même que la qualité du service offert, surtout l'étendue des services qu'ils offrent, est quand même assez exceptionnelle. Bruno, toi, tu as quelque chose à dire là-dessus? Je te vois qui opine du chef sur la découvrabilité.
Non, mais j'ai beaucoup aimé ce nouvel outil-là. Et où Ocha se démarque des autres hébergeurs, c'est que la plupart ont misé depuis longtemps sur des outils pour faciliter la vie des podcasteurs pour la production, mais peu ont investi sur la découvrabilité et c'est là où je trouve que Ocha a vraiment un pas d'avance, que ça soit avec le calendrier de publication en ligne, sur les réseaux sociaux, et maintenant on a un tableau qu'on peut utiliser, c'est vraiment bien foutu. Il y a ce module maintenant qui permet de travailler avec les mots-clés. Non, je lève mon chapeau, ils sont pas assez sur leur laurier, ils pourraient le faire hein, parce que déjà c'est une solution qui fonctionne bien. Et coup de chapeau aux gens qui font de la recherche et le développement chez eux. Ils arrivent toujours, hein, c'est presque aux deux mois, ils arrivent avec un nouveau truc. Et ça fait la différence parce que on le sait, c'est une chose de produire un podcast, mais après, c'est de le faire découvrir et pour que ce podcast-là rencontre son public. Et ça, là, c'est tout un travail.
Ouais, puis c'est, comme on dit au Québec, c'est pas des bébelles, c'est vraiment des avancées utile et efficace. Alors bravo les gens d'Ocha. Je sais que y a une conférence, elle sera passée quand on va diffuser cet épisode, mais Maxime Piquette, le patron d'Ocha, donne un zoom pour expliquer l'utilisation de ce truc-là. Je vais y être et je vous en reparlerai. Dernière actualité, Philippe, tu as reçu un courrier mystérieux.
Ouais, non, on n'a pas reçu un courrier mystérieux, on a simplement eu...
Oh, j'essayais de mettre un peu de... Oh,
c'est parce que j'ai imprimé la version papier, donc tout de suite, il croyait que c'est un courrier personnel qui m'a été envoyé. Non, ça n'a pas été vraiment très personnel, c'est l'Arcom qui vient de publier aujourd'hui, dans le cadre du festival Longueur d'onde, qui est un festival à Brest, auquel j'aurais vraiment aimé aller, mais c'est très très loin de Brive-la-Gaillarde, et j'ai à plusieurs reprises, malheureusement, pas pu y aller à cause de cette distance lointaine, mais il y a beaucoup d'acteurs de l'audio, c'est très culturel, c'est un festival d'écoute, mais il y a beaucoup de podcasteurs qui y vont depuis maintenant 4-5 ans, puisqu'ils ont un peu fait évoluer leur approche de festival d'écoute à un festival de podcast et de podcasteurs et podcasteuses. Et donc, l'Arcom avait lancé, je ne sais pas si vous en souvenez, l'année dernière, une pré-étude qui s'appelle l'Observatoire des podcasts, en fait, qui a été publiée. Donc, c'est là, ils ont publié les travaux de l'axe 1 de l'Observatoire des podcasts, à ne pas confondre avec l'Observatoire du podcast, qui lui est un autre observatoire qui est mené par le Charisme, qui a été lauréat d'un financement du ministère de la Culture, qui donc dans les deux, lui, observatoire du podcast, et qui a eu une réunion il n'y a pas longtemps.
Je suis déjà perdu.
Ben oui, il y a deux observatoires du podcast. Il y a un observatoire des podcasts par l'Arcom et un observatoire du podcast par le Charisme.
Mais comme on est en France, il y a peut-être un observatoire qui observe l'observatoire.
Exactement. Ça, c'est l'observatoire des observatoires des podcasts du podcast. Non, je rigole.
Ouais, c'est
bon,
formidable.
Allez, on va aller les conclusions. On va aux conclusions parce qu'on n'a pas le temps. On est déjà à plus d'une heure d'émission.
Ah oui, on est presque à la radio. Là, il faut que ça
close. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est une première étape et que ce qui a été constaté, c'est qu'il y a une offre assez innovante qui a dépassé la phase de lancement. Bon, ça, on le savait déjà. Et un marché qui évolue rapidement et bénéficie de nombreux atouts, mais qui cherche encore à se stabiliser. Bon, on enfonce des portes ouvertes. Un marché qui dispose d'une offre foisonnante et d'une forte dynamique de la demande, mais qui demeure fragile économiquement. Un écosystème hétérogène qui tente de se structurer avec tous les rachats, bien entendu, puisqu'ils ont analysé tous les achats, ils ont fait des cartographies, ils ont fait... Alors, il y a des choses très intéressantes. Attention, hein, parce que c'est quand même 6 formulaires qui ont été envoyés aux acteurs. Donc là, on étudie vraiment des problématiques assez poussées. Il y a eu beaucoup de réponses, donc je ne me moque pas. C'est vraiment un observatoire très intéressant, et il y a une trentaine de pages à télécharger sur le site de l'Arcom. On vous mettra le lien, bien entendu, dans la description, j'imagine, du magnifique podcast du podcastologue. Et puis le dernier constat, une offre culturelle assez innovante dont la plus-value est pas toujours bien appréhendée. Ça, c'est le cas de le dire, et surtout bien identifiée par le grand public. Les problématiques, c'est un, les modèles économiques pérennes pour les podcasts, et quelles sont les modalités de mise en œuvre. Quel est le poids économique du secteur? C'est pas forcément très identifié. Et quelles sont les spécificités de l'offre des podcasts et les apports de la création? C'est dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de s'appuyer sur ces spécificités pour faire du succès des usages, un succès économique. Donc, c'est vraiment, en gros, pour dire, c'est quoi le modèle? C'est quoi le modèle?
Ok, mais qu'est-ce qu'on apprend?
Rien, c'est un constat. Là, c'est... okay. Alors, ce qu'on va quand même voir, c'est les prochaines étapes.
Est-ce qu'il y a des chiffres?
Oui, il y a plein de chiffres. Ouais. Il y a plein de chiffres. Il y a plein de tableaux. Il y a les chiffres d'affaires des différentes sociétés du podcast. Il y a des spectres d'activité du podcast. Vous voyez, avec des spectres, avec qui fait quoi, comment.
Oh, c'est beau. On va partager
ça.
On va partager ça. Mais t'as pas eu le temps de tout lire parce que tu viens de le recevoir.
C'est aujourd'hui. Hein, donc, avec le salon et tout ça. Donc, il y a un axe 2 qui va arriver sur l'offre, qui permettra d'évaluer les spécificités de l'offre. Et ensuite, un axe 3 qui sera sur les principaux modèles économiques pour apprécier leurs spécificités, modalités de pérennité. Voilà.
Mais ça va se conduire sur combien d'années, ce bazar ?
Non, mais attends, Stéphane. Moi, j'ai appris en cherchant, parce que je savais qu'elle allait parler de ça, qu'à la fin, ils vont faire une série sur Netflix.
C'est sûr. Ceci dit, ils auront intérêt à travailler l'originalité, les storytelling, parce que pour l'instant, le contenu, ça m'a pas jeté à terre.
Écoute, c'est surtout qu'ils utilisent toujours les termes très très institutionnels et qui. Mais cela dit, en l'ayant vraiment feuilleté rapidement, il y a vraiment un gros travail qui a été réalisé et c'est une vraie structuration du marché. Quelque part, c'est aussi un signal, hein, si on réfléchit bien. Un signal pour des aides. Je sais pas si vous avez vu en Espagne, il y a 8 millions d'euros qui ont été attribués pour le podcast et les podcasteurs natifs. J'ai pas passé d'actu, mais je vous le dis. Ça veut dire aussi peut-être que parce qu'il y a une considération de l'ARCOM, du ministère de la Culture, peut-être que est en train de se mettre en place un système d'aide comme pourrait être le CNC pour le cinéma, pour le podcast.
Et on peut souhaiter la même chose au Québec et au Canada.
Exact, et c'est une discussion qui est en cours en ce moment. On parle avec des organismes qui diront rien à nos amis français, la SEDEC et autres organismes de financement qui ont du mal à comprendre ce qu'est le podcast, alors que c'est quand même pas si difficile que ça. Bref, messieurs, avez-vous quelque chose à ajouter?
Eh bien, nous te remercions, Stéphane, pour sincèrement avoir accepté que l'on puisse participer à nouveau.
Non, mais ce qui est très drôle, c'est que les gens croient qu'on fait le podcastologue pour eux, mais on fait juste le podcastologue pour se retrouver et se parler. On est désolé, on s'excuse, cher public, si vous nous écoutez, tant mieux, et vraiment, on l'apprécie énormément, mais sachez que on le fait avant tout par plaisir et parce que on aime discuter de cette passion qui nous anime. En tout cas, c'était la fin de ce deuxième épisode de cette troisième saison, donc le 28e épisode du Podcastologue. C'est une belle série de chiffres, ça. Je vous rappelle que l'infolettre est en service. Hein, elle est mise en ligne au moment où vous pourrez entendre cet épisode. Je remercie nos partenaires parce qu'ils contribuent beaucoup à ce qu'on puisse continuer à faire cette émission. Eddy Sound est notre nouveau partenaire Scribecast, dont vous pouvez retrouver les liens dans la description de cet épisode. Ce podcast est une production GoScript Media. Il est réalisé par l'excellentissime Bruno Guglielminetti et moi-même. Il est fait en présence du non moins excellentissime Philippe Chapeau. Je vous dis à très bientôt, mais surtout, n'oubliez pas d'aller mettre des commentaires et si vous êtes impatient d'écouter cet épisode, de le dire sur Apple Podcasts ou de nous poser des questions sur Spotify. Partagez-le à vos amis, à votre chien, à vos voisins, à tout le monde autour de vous. Parlez-en, à très bientôt et que l'audio soit avec vous.
Non mais quel foutage de gueule. Non mais quel foutage de gueule. Quel foutage de gueule. Non mais quel foutage de gueule. A little faster.